Avant de rentrer à l'église, je pense que vous avez expérimenté une sensation. Laquelle ? Il faisait frais dehors. Il faisait bon, hein ? Il y a pire. Il y a mieux. Et ça peut être pire. Depuis plusieurs semaines, nous faisons face à ces chaleurs quand même assez intenses. Et il y a un outil dont chacun essaye de se munir, avec des formes différentes. Hein, mais on s'est dit, il ne faut surtout pas oublier de prendre de l'eau. Parce que si on part sans avoir de l'eau avec nous, ben, ça peut vite tourner à la catastrophe, ou il est obligé de s'arrêter, de payer le prix fort pour une petite bouteille d'eau, n'est-ce pas ? Il y a quelques années de cela, une famille avait prévu un voyage dans le désert avec leurs enfants. Ils avaient envie de faire cette excursion. Et au lieu de faire recours à des guides expérimentés, ils avaient pris leur carte, ils avaient étudié le sujet, avaient réfléchi à ce qu'il fallait faire. Sauf qu'ils s'étaient donné un temps en se disant, voilà, on part de telle heure à telle heure, on ne va pas trop s'alourdir, on ne va pas trop charger. Et en effet, ils n'ont pas prévu suffisamment d'eau. Et lorsqu'ils étaient en chemin, ils ont eu un pépin avec le véhicule. Et malheureusement, ils ont tous péri. Terrible. La réalité, c'est que dans notre vie, nous aussi, nous sommes en voyage, et ô combien est important pour nous de préparer bien notre voyage et de prendre l'essentiel, parce qu'il y a toujours des accidents de la vie. Il y a toujours des petites choses qui, à un moment, peuvent nous mettre mal à l'aise. Combien de fois, en me promenant, je vois la voie rapide complètement bouchée, et les gens obligés de descendre de la voiture. Alors, quand c'est le soir, ça va ? À part quelques moustiques qui viennent un peu rendre visite, prendre des nouvelles, favoriser la circulation du sang, le mouvement. Mais ça va, mais quand c'est en plein midi ? Et je lisais ce texte de l'évangile de Jean au chapitre 7, versets 37 à 39, et je me disais, Seigneur, comment l'assoiffé peut devenir un porteur d'eau. Comment l'assoiffé peut devenir un porteur d'eau ? Parce que la soif, on sait tous ce que c'est, non ? Mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'amener de l'eau à quelqu'un ? Ah oui, certainement. Tu peux me prendre un verre d'eau ? Hein ? Et quand on se dit un verre d'eau, c'est essentiel, non ? Alors Jésus dira ceci, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein, comme dit l'Écriture. » Et il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croyaient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus avertit, propose, un changement radical, profond, dans le cœur de ceux qui veulent avancer dans la foi. Jésus se tient debout et il ne se soucie pas de ce que les uns et les autres vont pouvoir peut-être dire de ses paroles. Jésus va livrer un message d'espérance. Si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Jésus s'appuie sur la parole de Dieu. Et nous aussi, encore ce soir, nous voulons nous appuyer sur la parole de Dieu. Puisque Dieu désire profondément, par sa parole, nous instruire et nous amener à un changement profond. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas d'eau dans une maison ? Commençons dans une maison. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas d'eau ? On est tellement habitué à lever notre petit levier, à avoir de l'eau qui coule, c'est devenu une habitude. On ne se voit pas, on ne s'imagine pas reprendre, vous savez, ce vieux système où on avait un bout de bois, où on avait des vases attachés, on partait en faisant des distances pour remplir de l'eau. Et quand on arrivait à la maison, on buvait tout, on était tout de suite reparti pour refaire le plein. Hein ? Et là, l'eau prend une valeur différente. Tant qu'il y en a au robinet, tout va bien. Ça ne nous pose pas question. Parfois même, on laisse couler le bruit, la fraîcheur. Mais quand l'eau manque, tout manque. Qu'est-ce qui se passe quand l'eau manque dans le cœur d'un homme, dans la vie d'un être humain ? Notre vie s'assèche depuis l'intérieur. Et on n'est pas seulement nous en un état de sécheresse, mais on ne peut plus rien pour les autres. Et Jésus est en train de leur dire, si vous voulez que la situation de votre cœur, de votre vie, de votre foyer change, croyez en moi. Et quelque chose va se produire dans votre cœur, pas seulement vous sortirez de cette sécheresse spirituelle, morale, voire même physique, puisque Jésus guérissait les malades, mais vous allez devenir un moyen de bénédiction pour les autres, puisque la volonté de Dieu, c'est que nous puissions être à son image. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, les versets 1 et 2, il est dit ceci, « Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de vie qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. » Moi, juste en lisant ce texte, je m'imagine un tout petit peu la scène. J'ai soif et je dois choisir. D'un côté, je vois de l'eau, mais pas de mouvement. Je m'approche, ça sent pas bon. Vous m'excusez, même si j'ai soif, j'irai pas mettre ma bouche là-dedans. Et de l'autre côté, Dieu me propose un fleuve où l'eau est cristalline. Premier élément, non ? Ça commence à... Par expérience, on commence à regarder, est-ce que les poissons nagent ou les poissons surnagent ? Parce que si les poissons nagent, c'est que l'eau est bonne. Si les poissons surnagent, qu'est-ce que ça veut dire ? Mieux éviter, non ? Et en plus, il me dit qu'il y a quelque chose, la volonté de Dieu, c'est que cette eau serve pour la guérison des nations. Qui a soif de cette eau ? On ne parle pas de n'importe quelle eau, on parle d'une eau qui change. Et Jésus, c'est lui-même qui dit, « Celui qui croit en moi, des sources d'eau vive sortiront de son sang, jailliront. » Quelque chose qui part qu'on peut plus, on ne va pas remettre un bouchon dessus, on laisse couler. Là, il n'y a pas de problème de facture d'eau. Hein ? Vous avez déjà vu ces cascades, même en photo, hein ? Image de cascade, qu'est-ce que ça vous dit ? Dans une journée chaude comme celle-ci, vous dites « Ah, qu'est-ce que je serais bien en dessous de la cascade ?» C'est juste ou pas ? Là, vous ne considérez pas les milliers de litres d'eau qui coulent. Dites « La cascade !» Alors, quel est le besoin qui est le nôtre ? Pas seulement pour nous. Parce que si on ne garde qu'à notre cœur, ben, à quelque part, on reste égoïste. Mais Dieu voudrait changer notre vision des choses. Veut changer notre vie, veut changer notre regard sur les choses, sur la foi, sur la relation avec Dieu, mais aussi avec ceux qui nous entourent. Le psaume 36, versets 8 à 10, dit ceci, « Combien est précieuse ta bienveillance, ô Dieu ! À l'ombre de tes ailes, les humains se réfugient, ils se rassasient de l'abondance de ta maison, tu les abreuves au torrent de tes délices, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Tout change. Quand on a soif, Il y a un moment où on est pris par ce besoin pressant et après quoi on ne voit pas tout ce qu'il y a autour. On peut vous proposer beaucoup de choses, mais tout ce que vous souhaitez, c'est boire. Non ? Soif. J'ai un besoin. Est-ce qu'on a besoin ? Est-ce qu'on est clair sur les besoins de notre âme ? Parce que parfois, on va et on goûte à plusieurs sources, on goûte un peu à tout, mais ça n'épanche jamais notre soif. Je dirais que certaines choses qu'on a pu peut-être goûter nous ont même laissé un goût amer. Ils nous ont déçus. Quand on prend un verre d'eau et que ça a un mauvais goût, ça nous déçoit. Non ? Jeune, j'étais très farceur. Et un jour, j'ai voulu faire une farce à quelqu'un. Au lieu de lui donner un bon verre d'eau normal, j'avais fait diluer un peu de sel à l'intérieur. Alors, je vous laisse imaginer la tête de celui qui a bu l'eau salée, alors qu'il s'attendait à un bon... Et il y est allé de toute foi. Ah, les grimaces, je ne les ai jamais oubliées. C'est normal, parce qu'il ne s'y attendait pas. Et à quelque part, il me faisait confiance. Alors, j'ai arrêté de faire des farces, ne vous inquiétez pas. Si vous me donnez un verre d'eau, je vous donnerai un verre d'eau douce, sans sel ajouté. Hein ? Mais combien de fois dans la vie, on nous a proposé quelque chose qui n'était pas du tout ce qu'on attendait ? On voulait vivre quelque chose avec foi et on nous a proposé une religion. On voulait vivre quelque chose de sincère et on s'est rendu compte que derrière, la sincérité venait à manquer. On pensait avoir quelque chose de vrai, de propre, de limpide, sans manipulation. Et du coup, on s'est rendu compte que ce n'était pas si sincère que ça. Ce n'était pas si propre que ça. Alors, je voudrais vous dire que la volonté du Seigneur, ce n'est pas seulement de nous offrir quelque chose, mais c'est de s'investir dans notre vie. D'ailleurs, quand Jésus dira « Si quelqu'un croit en moi, des sources d'eau vive jailliront dans son cœur. » Le Seigneur souhaite établir son esprit dans notre cœur, souhaite s'engager avec nous pour nous amener à découvrir ce que est la bonté, la miséricorde, la grâce de Dieu. Dans le psaume 65, au verset 10 et 11, nous lisons ceci. « Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé. Quand tu la prépares ainsi, en arrosant ses sillons et en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des ondées. Tu bénis ses germes. Amen. » Il y a quelques jours, on a ramené la famille visiter un peu cette belle région. Et depuis combien de temps il ne pleut pas ? Dites-moi. 10 jours ? Une semaine ? T'as eu de la pluie, toi ? C'est pas la voisine qui balançait l'eau du balcon. Une vraie pluie. Une pluie qui détrempe la terre. Pas 4 gouttelettes, une vraie pluie. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Je pense même un peu plus, peut-être. Mais en passant à la gare, on disait, mais comment est-il possible ? C'est vert. Et je me disais, Seigneur, on peut traverser des périodes de sécheresse où l'eau ne tombe pas du ciel, mais toi, tu as préparé des réserves pour nous. Et en effet, en regardant dans les sillons, en regardant bien, on voyait de l'eau. Elle est là, l'eau. Et Seigneur voudrait nous inviter à faire preuve et à vivre, à goûter ses réserves. Il dit, tu a préparé des ruisseaux pleins d'eau. Tu prépares le blé en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu les détrempes des ondées, tu bénis ses germes. Alors je voudrais vous dire, le Seigneur voudrait bénir votre vie. Il faut accepter que le Seigneur le fasse autrement que nous, on pourrait l'imaginer. Nous, peut-être, on attend l'eau qui tombe du ciel, mais le Seigneur a prévu des réserves pour nous. Et dans sa parole, il nous dit comment, pas seulement être nous au bénéfice de sa bénédiction, mais comment nous-mêmes devenir des porteurs d'eau. J'étais toujours interpellé par une image que j'avais vue enfant de quelqu'un qui se trouvait dans un bateau qui coulait. Et ce bateau qui coulait faisait qu'il y avait beaucoup de personnes. Et toutes ces personnes essayaient de se sauver la vie. On est d'accord, hein ? Et quand quelqu'un arrivait au rivage, il y avait deux types de comportements. Ça m'a interpellé. Le premier, celui qui était sauvé, il sortait de l'eau et il partait. Et je suis sauvé. Tout va bien. Hop, je prends mon chemin. Et l'autre qui se mettait sur le bord a aidé les autres à sortir de l'eau. Ça montre beaucoup de choses. Ça implique à quelque part qu'on a pris conscience que ce n'était pas si évident que ça de sauver notre vie. Et que, Dieu merci, on a pu sauver notre vie, mais nous avons aussi une responsabilité qui est celle d'aider d'autres à sortir et peut-être à goûter à cette eau vive. Alors j'aimerais lire avec vous un autre texte qui se trouve en Ézéchiel et voir les quatre étapes qui feront de chacun de nous des porteurs d'eau. Ézéchiel chapitre 47, il est écrit ceci. Il me ramena vers l'entrée de la maison de l'Éternel, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'est, car la façade de la maison était à l'est. L'eau descendait sur le côté droit de la maison, au sud de l'autel. Il me fit sortir par le chemin du porche nord, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur du porche faisant face à l'est. Voici que l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme sortit vers l'est, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, qu'alors était si profonde que il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Et il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Il me conduisit et me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Et il me dit, « Cette eau sortira vers le district oriental, descendra dans l'Araba et entrera dans la mer. Lorsque ce sera jeté dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent arrivera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car cette eau arrive là-bas et les eaux deviendront saines. Il y aura de la vie partout où arrivera le torrent. Alors des pêcheurs s'y tiendront. Depuis Enguedi jusqu'à Eneglam, on étendra les filets. Ces poissons seront de l'espèce des poissons de la grande mer. Ils seront très nombreux. Ces marais et ces lagunes ne seront pas assainis. Ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne s'épuiseront pas. Ils donneront des primeurs tous les mois parce que ces eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nature et de nourriture et leur feuillage de remède. Amen. Alors, en lisant ce texte, je me disais, Seigneur, quelle expérience incroyable pour quelqu'un d'avoir cette vision. Et tu as permis au prophète Ézéchiel d'avoir cette vision et de pas seulement avoir une vision, mais presque de ressentir ce qu'il voyait en vision. Parce que quand Dieu nous parle, il n'y a pas juste une question, ce n'est pas du tout une question intellectuelle. Quand Dieu nous parle, il interpelle notre cœur, notre âme. Ce n'est pas l'intellect, ça va bien plus profond. Vous comme moi, on a lu des livres, on les a lus, on sait qu'on les a lus, mais on les a oubliés, non ? Il y a même des parties de l'histoire avec des dates précises. Alors, si vous êtes fort en histoire, tant mieux pour vous. Moi déjà, heureusement que j'ai noté ma date de naissance. Les dates, c'est un truc terrible pour moi. Heureusement que la technologie fait qu'on peut les noter et ça nous les rappelle. Hein ? J'ai aucun mérite quand je vous appelle ou je vous envoie un petit message en vous disant « Ok, aujourd'hui, c'est ton jour d'anniversaire, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse. » J'ai aucun intérêt. C'est pas moi, c'est la machine qui me le rappelle. Hein ? Mais je me dis « Seigneur, il y a des choses qu'on a pu expérimenter et n'ont rien changé à notre vie. » Mais quand on fait cette expérience avec Dieu, où Dieu interpelle notre cœur, il y a des choses qui changent dans notre vie, dans notre regard, dans notre pensée. Ézéchiel va faire cette expérience, il va voir le temple, et de ce temple, il va voir de l'eau ruisseler de tous les côtés. La bénédiction qui en ressort. Cette bénédiction qui se reverse sur les torrents, des torrents qui étaient devenus comme des marais, des choses où il n'y avait plus rien. Quand Dieu rentre dans le cœur, dans la vie d'une personne, très souvent, cette personne, elle a passé des moments très difficiles. Il n'y avait plus rien de bon. Voire, quand il touchait quelque chose, tout s'abîmait. Moi, je sais, il y a une période de ma vie, tout ce que j'essayais de faire, il n'y avait rien qui marchait. C'était pire que mieux. Et pourtant, je faisais tous mes efforts. Je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que, à chaque fois que je touche quelque chose, les autres, ils le font, ça marche. Moi, je le regarde. Vous savez, c'est comme ceux qui ont la main verte. Ils regardent les fleurs, elles sourient. Moi, je les regarde, elles assèchent, sur place. Je n'ai pas la main verte. Et je me dis, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Jusqu'au moment où on a une révélation de Dieu dans notre cœur, et Dieu veut que nous puissions avoir cette révélation, parce que ça va tout changer. Ézéchiel fera cette expérience, et il sera amené à un certain moment à faire confiance, puisqu'il verra un homme qui vient prendre 1000 coudées mesurées et lui demande d'avancer. Et il dit la première chose, il dit, j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Première étape, qu'est-ce que c'est ? À quelque part, la première étape pour quelqu'un qui veut changer de vie, qui veut vraiment faire confiance à Dieu, c'est la conversion. C'est le baptême d'eau. De dire, Seigneur, je veux te faire confiance, je te donne ma vie. Seigneur, je suis prêt à me mouiller. Hein ? Seigneur, je ne sais pas jusqu'à où tu vas m'amener, mais Seigneur, je te fais confiance. Peut-être certains se diraient, mais je ne sais pas nager, j'ai peur. Hein ? Quand on ne sait pas nager, 10 cm suffisent pour se noyer. Hein ? On a peur même de 10 cm d'eau. Mais si quelqu'un est à nos côtés qui nous amène et qui nous dit, t'inquiète pas, je suis là avec toi, il n'y a pas de souci. On fait confiance. Et on avance. Et là, ce texte, il nous dit qu'en effet, il avance. L'eau arrive jusqu'aux chevilles. Première étape, la conversion. Cette décision personnelle de faire confiance à Dieu, de marcher avec Dieu. Cette décision personnelle de s'engager avec Dieu et d'obéir à la parole de Dieu. Après, il lui dit, va un peu plus loin. Il remesure 1000 coudées. Et il dira, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Quelque part, c'est le genou, c'est un peu l'image de celui qui prie, hein, non ? Deviens un disciple. Marche spirituellement, et vis le baptême du Saint-Esprit. Jésus dira à ses disciples de ne pas bouger de Jérusalem tant qu'ils n'avaient pas été baptisés du Saint-Esprit. Ce n'est pas une option, c'est l'équipement nécessaire. Et Jésus leur dira, ne bougez pas de là. Vous avez besoin de vivre cette expérience merveilleuse. D'ailleurs, je vous rappelle que le premier texte que nous avons lu, Jésus dira que celui qui a soif, et Jésus parlait du Saint-Esprit qui allait être donné après que lui serait parti. C'était quelque chose pour laquelle ils en avaient entendu parler, mais ils ne l'avaient pas expérimenté. Alors peut-être qu'encore aujourd'hui, il y en a qui ont entendu parler du Saint-Esprit, mais ils ne l'ont pas expérimenté. Moi, je voudrais vous encourager à dire, Seigneur, amène-moi là-haut, dans les eaux profondes, pour que je puisse finalement, Seigneur, lâcher prise. Seigneur, j'ai pu avoir peur, est-ce que... Non, non, Seigneur, je te fais confiance. Si tu demandes à Dieu des poissons, il ne te donnera pas des serpents. Si tu demandes à Dieu du pain, il ne te donnera pas des pierres. Amen. Il va un peu plus loin. Il dit, j'avais de l'eau jusqu'au rein. Et là, en réalité, on pense que tous les changements de notre vie s'effectuent à la conversion. Ça serait magnifique. Et il y a parfois des changements qu'on voudrait qui se produisent dans notre vie et on y met tout notre cœur. Mais en effet, les vrais changements se produisent du moment où le Saint-Esprit rentre dans notre vie, parce que c'est lui qui va nous aider. Jésus dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors la présence du Saint-Esprit agit, mais il nous amène aussi à mourir à soi-même. Et il est question pour nous de nous donner à Dieu. Seigneur, je te laisse agir pleinement dans ma vie. Seigneur, je te laisse le contrôle de ma vie. Combien d'entre vous arrivent toujours à s'endormir quand quelqu'un d'autre conduit ? Allez, vous allez me dire, ça dépend de qui conduit. Hein ? Parfois, puisqu'on connaît celui qui conduit, ben, il ne faut pas dormir. Alors, ma femme, elle conduit très bien. Mais parfois, elle a le pied lourd. Et je me rappelle d'un voyage qu'on a fait en Italie, où de temps en temps, juste au bruit du moteur, je disais, lève le pied. Il dit, mais tu dors pas avec un œil. Quand on fait confiance à Dieu, on peut rester tranquille. On peut dire, Seigneur, je te fais pleinement confiance. Ce n'est plus moi qui contrôle, c'est toi, Seigneur. C'est toi qui agis. Et le texte nous dit qu'il a amené encore un peu plus loin, où les eaux étaient profondes et qu'il fallait y nager. Et c'est seulement là qu'en effet, sa vision de ce que Dieu attendait de lui va se réaliser dans son cœur. C'est quand on laisse tout le contrôle à Dieu. C'est quand, en effet, c'est plus sur nos propres jambes qu'on compte, mais on compte sur le fait que Dieu nous tient par la main. Parce que d'ailleurs, si vous lisez bien le texte, il dit « après il me ramena ». Dieu ne nous laisse pas seuls. Quand le courant est fort, c'est terrible. J'étais très jeune et là où y habitent mes parents, il y a, on appelle ça des ravines. Et quand il y a des grandes pluies en montagne, d'un coup, ces passages d'eau, en été, ils sont secs, on fait les routes, mais dès qu'il pleut, c'est fini. Mais un soir, c'était le seul moyen de rentrer à la maison. Et j'ai dû passer par là. Et il y avait un éleveur qui avait, il s'était dit, bah, puisqu'il ne pleut pas, il avait installé un grillage, il avait mis ses moutons. Des dizaines de moutons. Et là, l'eau a commencé à couler incontrôlable. Mais moi, il fallait que je rentre à la maison. Ni un, ni deux, je me suis dit, j'y vais, hein, quand on est jeune. Hein. Et bon, l'eau a commencé à arriver jusque-là, je me suis dit, bon, j'espère que... Et quand l'eau a commencé à arriver jusque-là, et que je voyais les moutons passer devant moi en faisant bé... Là, je priais doublement. Hein. J'ai essayé que je fasse pas la fin du mouton, là. Parce que les moutons, ils sont tous morts. Quand je suis arrivé de l'autre côté, je peux vous dire que je chantais Alléluia, Seigneur. Hein. C'était le seul moyen de rentrer à la maison. Le seul moyen pour nous d'expérimenter des choses avec Dieu, c'est parfois de perdre pied, d'arrêter de vouloir tout contrôler dans notre vie, d'arrêter de dire, Seigneur, je veux ceci, je veux cela. Le plus important pour nous, pour chacun de nous, c'est de dire, Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai besoin que des flots d'eau vive soient dans mon sein, qui me donnent envie de parler aux autres de toi. Et après, je te laisse faire, Seigneur. C'est toi qui fais bien les choses. Et tout ce qui était un problème avant, mais Dieu le change. Je me rappelle d'un couple qui était venu à l'église. Ils étaient dans une situation difficile. Le couple était presque... Ils se déchiraient. Et quand ils sont venus la première fois à écouter l'évangile, il y a quelque chose qui s'est produit dans leur cœur. Et à la fin de la réunion, ils sont venus, ils ont dit, est-ce que vous pouvez prier pour nous ? Alors, pas par curiosité, mais juste pour bien cibler la prière, je dis, de quoi avez-vous besoin ? De quoi avez-vous besoin ? Et finalement, l'un et l'autre, ils ont partagé leur fardeau. Et je leur ai dit, est-ce que vous êtes prêts à faire confiance à Dieu ? Parce que vous savez, humainement, on ne voit que les défauts de l'autre, les erreurs de l'autre, les bêtises de l'autre. Et on se dit, il n'y a pas d'avenir, j'ai essayé, j'ai tout fait, voire même, quand il changera, je changerai. Et là, ce soir-là, je lui dis, est-ce que vous êtes prêts à faire confiance au Seigneur ? Et ils me disent, il ne nous reste que ça. On a tout essayé. Il ne nous reste que ça. Et ils ont fait confiance à Dieu. Et leur couple s'est rétabli. Leur vie a changé. Leur regard l'un sur l'autre a changé parce qu'ils ont commencé à regarder l'autre, non plus avec leur ancien regard, mais avec le regard que Dieu leur donnait. Un regard passion, un regard d'amour, un regard de pardon. Parce que fur et à mesure, on se rend compte que oui, l'autre, il n'a pas fait tout juste, mais moi non plus. Mais jusque-là, vous savez, on peut s'enfermer dans un sentiment de dire j'ai tout fait et l'autre, il n'a rien fait, donc tant pis. On arrête. Et je parle de ça comme il peut y avoir d'autres expériences. Alors, je ne sais pas de quoi vous avez besoin. Mais je peux vous dire que ce que Jésus propose, il dit, si quelqu'un, si celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein, je voudrais vous dire que l'eau de Dieu puisse être comme un fleuve dans votre cœur, mais que vous puissiez devenir des porteurs d'eau, un message d'espérance à ceux qui sont autour de vous. Voir comment cette eau peut changer votre cœur et votre vie. Je disais... à quelqu'un dernièrement du témoignage de deux petites qu'Elisabeth elle avait gardées. Elle était assistante maternelle. Et elle nous amène ces deux petites dont les grands-parents étaient chrétiens et continuaient de prier parce que leur fille, elle s'était convertie, mais après elle avait tout quitté. Elle avait laissé la main du Seigneur. Elle s'était mariée, quelqu'un de gentil, un bosseur. Ils ont eu deux enfants et quand ils ont eu le troisième malheureusement est décédé. Souffrance profonde, tristesse qu'on ne peut pas mesurer. Et quand on passe par ces expériences, c'est facile depuis l'extérieur de dire on aurait pu, on aurait dû, il aurait fallu. Mais quand on est dedans, c'est pas si évident que ça. Et cette femme était tombée en dépression, son mari ne savait plus comment faire. Et les deux petites, elles étaient très souvent un peu perdues parce que, ben voilà, à la maison, rien n'était comme il le fallait. Le papa, il devait partir travailler, il partait la semaine, chauffeur poids lourd. Et les petites, c'était un peu aléatoire. On va à l'école à 8h, 8h30, 9h. Et donc finalement, elle demande à Elisabeth si elle était d'accord d'être la nounou des petites. Et on les prend à la maison et nous on leur dit, bah, écoutez, par contre, nous, on a l'habitude de prier à midi. Prends le repas, on prie. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mes parents, ils sont chrétiens. Je dis, bon, ok, c'est bien. Et donc, les petites sont venues à la maison et à midi, c'était la prière ou c'était un chant avant le repas. Et après, elles avaient vu dans la bibliothèque des gamins, de nos enfants, il y avait les Bibles. Ma première Bible avec des bandes dessinées, des trucs. Elles les ont lues, relues. Et quelques mois plus tard, c'était le moment où, à l'église, on avait préparé avec les enfants. Il y avait une histoire de la Bible et les enfants avaient préparé cette histoire pour la présenter aux adultes. C'était un peu ce qu'ils avaient fait à l'école du dimanche. Et donc, c'était le moment de présenter cette histoire. Et les petites, elles ont voulu venir. Ils ont dit à la maman, écoute, tu nous ramènes à l'église, on veut aller à l'église. Et la maman est venue. Et les petites, tellement lui parlaient, et tellement la maman voyait ces petites retrouver de la joie, retrouver du bonheur, qu'elles venaient régulièrement à la maison. Et quand c'était question de venir prendre les petites pour repartir, en effet, elles restaient encore 2 heures. Alors, on n'a jamais fait payer le surplus des heures, parce qu'on se disait, Seigneur, il faut que quelque chose se passe dans le cœur. Et vous savez quoi? Les petites sont devenues des porteuses d'eau pour la maman. Et à fur et à mesure, la maman allait mieux, de mieux en mieux. Et du coup, le dimanche, les petites réveillaient les parents pour venir à l'église. Et ils leur disaient déjà la veille, demain matin, vous vous levez, hein? Vous vous levez, on doit aller à l'église. OK. Et finalement, le papa vient une fois, deux fois. Lui, dans... Sa famille avait vécu des catastrophes, sa maman était alcoolique, son frère, c'était une catastrophe aussi. Donc un parcours chaotique, lui-même avait vécu des choses très difficiles. Donc il comprenait bien que les filles, elles avaient besoin de tout cela, mais il ne comprenait pas ce qui se passait dans le cœur de sa femme, puisque quelques temps avant, elle était en pleine dépression, et là finalement, elle commençait à revivre. Et il vient, il écoute. Et un soir, alors qu'il monte les escaliers de l'étage, on entend sa petite pleurer, pleurer profondément. Et la maman lui dit, mais pourquoi tu pleures? Parce que papa n'aime pas Jésus. Et la maman lui dit, mais qu'est-ce qui te fait dire que papa n'aime pas Jésus? Et parce que je le vois, il ne veut pas venir à l'église. Il ne prie pas à Jésus. Et le papa, en entendant sa fille, il se met à pleurer dans l'escalier. Et le dimanche, il vient à l'église. Il y a eu quelque chose qui a transformé toute sa manière de voir. Il a donné finalement son cœur au Seigneur. Il s'est baptisé, il s'est engagé vraiment par les eaux du baptême. Et après, c'est lui qui parlait du Seigneur à sa maman. Et sa maman, juste avant de mourir, finalement a donné son cœur au Seigneur. Comment un assoiffé peut devenir un porteur d'eau? Parce que finalement, en goûtant à l'eau que Dieu nous donne, tout change dans notre vie. Et on se dit que si ça a changé pour nous, ça peut changer aussi dans la vie des autres. Mais il y a des étapes. Croire au Seigneur, s'engager avec Dieu. Choisir d'être un disciple de Christ, ça veut dire marcher avec le Seigneur, recevoir le Saint-Esprit. Décider de mourir à soi-même pour finalement vivre comme Dieu nous le demande. Et après laisser Dieu changer notre vision des choses. Laisser le contrôle de notre vie à Dieu. Permettre à Dieu de nous amener là sur le rivage où tout change, dans le texte, on l'a lu, là où cette eau arrivait. Il y avait du poisson en abondance, les arbres produisaient du fruit. Et il n'y avait pas d'arrêt dans les saisons, c'était continuel. Et je vous dis qu'avec le Seigneur, la bénédiction, la grâce de Dieu, elles sont là continuellement. Mais il y a des endroits où l'eau n'arrive pas. Et il n'y a rien qui change, les marécages ne changent pas. parce qu'il n'y a pas d'eau vive qui rentre. Peut-être qu'il y a des endroits dans notre vie qu'on a donné au Seigneur, il y a des choses qu'on a données à Dieu, mais peut-être qu'il y en a d'autres qu'on a préservées, on a gardées, on a voulu garder fermés ces endroits. On ne laisse pas l'eau de Dieu venir. Des parties de notre cœur, de nos pensées, de nos projets, de nos sentiments. Et si ce soir vous décidiez de lâcher prise, de faire les 1000 coudées qui manquent pour finalement être obligé de nager dans le bonheur, être obligé de nager et laisser Dieu vous ramener sur le rivage qu'il a prévu pour vous. Alors si c'est le cas, je vous invite juste à fermer vos yeux. Nous allons incliner nos têtes. Et j'aimerais juste faire un appel simple. Si vous considérez que vous avez besoin de Jésus, si vous êtes prêt ou prête à croire en Jésus, le Fils de Dieu, si vous désirez que votre vie change et que les choses changent en profondeur, véritablement, que les choses changent dans votre vie, dans votre foyer, dans votre entourage, je voudrais vous encourager à croire en Jésus. Et si quelqu'un voudrait faire la paix avec Dieu, si quelqu'un désirait dire à Jésus, oui, je veux croire en toi, je voudrais juste vous encourager à lever votre main et je vais prier pour vous. Oui, je vais prier pour toi. Oui, je vais prier pour vous. Amen. Oui, j'ai vu vos mains. Je vais prier pour vous. Mais je voudrais vous encourager tout simplement dans votre cœur de dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Seigneur, tu vois ces mains qui se sont levées, ces cœurs qui s'expriment par cet acte de foi de dire, moi, j'ai besoin de Jésus. Et je te prie de rentrer dans leur cœur et de faire, Seigneur, que des fleuves d'eau vive coulent pour que finalement ils puissent expérimenter ce qui est la paix avec Dieu le Père. Qu'ils puissent, Seigneur, finalement vivre cette nouvelle vie avec toi en expérimentant, Seigneur, la joie de t'avoir à leur côté, à chaque moment, Seigneur. Seigneur, et lorsque, Seigneur, les différentes étapes de la vie nous amènent, Seigneur, à grandir, à mieux te connaître, Seigneur, par l'engagement des eaux du baptême, par le baptême du Saint-Esprit, Seigneur, et par tout ce que nous avons partagé, Seigneur, merci d'être toujours à nos côtés. Merci de nous tenir par la main, Seigneur, parce que nous avons peur de nous tromper. Mais si toi, tu tiens notre main, Seigneur, il n'y a pas de risque de se tromper. Il n'y a pas à avoir peur, Seigneur, parce que tu es là. Et Seigneur, même si nous, on perd le contrôle, Seigneur, toi, tu ne perdras jamais le contrôle. Tu ne nous laisseras jamais tomber. Seigneur, merci pour ces mains qui sont levées, surtout pour ces cœurs qui t'ont dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je te prie, Seigneur, de faire que des flots d'eau vive coulent dans leur cœur, dans leur vie, et qu'ils puissent expérimenter, Seigneur. Seigneur, à cette puissance de l'action du Saint-Esprit dans leur cœur, dans leur vie. Seigneur, nous te remettons nos cœurs. Seigneur, je te prie pour ceux qui ont peut-être fait déjà certains pas, mais peut-être qu'il leur manque encore un pas de plus. C'est quelques coudées pour laisser tout le contrôle à toi. Seigneur, aide-les. Et Seigneur, permet de voir, Seigneur, pas seulement dans leur vie, mais aussi autour d'eux, Seigneur, ce que ta parole produit, ce changement, cette vie qui se communique et qui change ceux qui étaient morts en vivant. Seigneur, qui assainit les choses au point de permettre, Seigneur, à qu'il y ait un fruit continuel, Seigneur, une bénédiction continuelle. Merci pour ta parole, Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons et nous te remercions au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Que le Seigneur fasse de chacun